Chapitre 57.
Bon, j'ai suivi tes indications pour nous téléporter ici, dit Héphaïstos. Mais au nom d'Hadès, où sommes-nous?
Sur Ithaque, répond Achille. Une rude île rocheuse. Le lieu idéal pour élever un enfant et faire de lui un homme.
Un trou perdu et puant, ouais,
réplique le dieu du feu. Il s'avance en boitillant sur un sentier raide et rocailleux, longeant des prés où paissent vaches et chèvres, et au bout duquel on distingue les toits en tuiles rouges de plusieurs bâtiments écrasés par le soleil.
« Je suis venu ici à plusieurs reprises, » reprend Achille, « et la première fois, je n'étais qu'un enfant. »
Le héros a sanglé sur une épaule son lourd bouclier et passé derrière l'autre le fourreau de son épée. Ni la chaleur ni l'effort ne le font transpirer, mais Héphaïstos, qui le suit à grand-peine, a âne et su tout ce qu'il sait. Des gouttelettes perlent à la barbe de l'immortel artificier. Le sentier s'achève au sommet de la colline, face à de hauts bâtiments.
« Le palais d'Odysseus !»
annonce Achille en parcourant au petit trot les 100 et quelques pas qui l'en séparent.
« Un palais, ça ?»
Le dieu du feu fait halte devant les portes de l'édifice, le dos voûté, les mains sur les cuisses comme sur le point de vomir.
« Une porcherie à étage, ouais !»
râle-t-il. Les ruines d'une petite forteresse abandonnée se dressent à 150 pieds du bâtiment principal, sur un promontoire dominant la falaise. Le palais d'Odysseus proprement dit est bâti de pierre et de bois, et ses portes consistent en 2 antiques blocs de pierre taillée. La terrasse pavée de carreaux impeccablement alignés, œuvre des meilleurs artisans de la région, n'a pas été entretenue depuis quelque temps, et les murs et les colonnades sont peints de couleurs vives. De part et d'autre de l'entrée, les colonnes sont recouvertes de lierre et d'oiseaux en trompe-l'œil, mais du vrai lierre a fini par dissimuler ses motifs, invitant de vrais oiseaux à y faire leur nid. Par-delà les portes entrouvertes, Achille distingue les fresques colorées ornant les murs du vestibule. Il s'avance vers celui-ci, mais Héphaïstos le retient par le bras.
« Il y a un champ de force devant toi, fils de Pélée. »«
Je ne le vois pas. »«
Tu ne manquerais pas de le sentir. Il ne te pulvériserait pas comme il le ferait d'un mortel ordinaire, vu que tu es investi d'une singularité probabiliste qui fait de toi le tueur d'hommes au pied rapide, pour citer Nyx. » Mais il te laisserait sur le cul. Si j'en crois mes instruments, c'est du 200 000 volts renforcé par un ampérage dévastateur. Écarte-toi.
Le petit dieu barbu pêche dans les trous pendant à son torse des boîtes et des objets métalliques aux formes biscornues, consulte divers cadrans, s'empare d'une pince à mâchoire de crocodile pour fixer au champ de force invisible une sorte de furet métallique, relie 4 appareils rhomboïdaux au moyen de fils colorés, et finalement appuie sur un bouton.
« Et voilà !»
annonce Héphaïstos, le dieu du feu.
« Le champ est désactivé. »«
C'est ce que j'aime chez les grands prêtres !» raille Achille. « Ils ne foutent rien et ensuite ils s'en vantent. »«
Tu ne m'accuserais pas de me tourner les pouces si tu avais tâté de ce champ de force !»
gronde le dieu.
« Une recette d'airée avec mes machines comme ingrédient de base. »
« Alors je te remercie. »
Achille franchit les portes de pierre et s'engouffre dans le vestibule de la demeure d'Odysseus. Soudain, on entend un grondement et un animal surgit de l'obscurité. Achille tire aussitôt son épée du fourreau, mais le chien s'est déjà effondré sur le carreau.
« C'est Argos, » dit Achille en caressant la tête de l'animal pantelant. « Odysseus l'a acquis il y a plus de 10 ans, alors que ce n'était encore qu'un chiot. » Mais il a dû partir pour 3 avant d'avoir pu le dresser à la chasse aux cerfs et aux sangliers. C'est Télémaque, le fils de notre rusé camarade, qui devait lui servir de maître en son absence.
« Ça fait des semaines que ce Klebs n'a pas eu de maître, » dit Héphaïstos. « Il est quasiment mort de faim. »
En effet, Argos est trop faible pour se tenir debout, pour même lever la tête. Seuls ses grands yeux larmoyants réagissent aux caresses que lui prodigue le héros. Ses flancs, aux côtes saillantes sous le poil terne, évoque la carcasse d'une nef inachevée sous une toile cramoisie.
Le champ de force d'Héré l'empêche de sortir, murmure Achille. Je parie qu'il n'y a plus rien à manger dans la maison. L'eau de pluie lui a permis d'étancher sa soif, mais la faim aura bientôt raison de lui.
Achille attrape dans sa besace quelques-uns des biscuits dont il a fait provision dans la demeure du dieu artificier et en donne 2 au chien. Celui-ci parvient à peine à les mâcher. Achille en pose 3 autres près de lui et se redresse.
Plus rien à bouffer, même pas un cadavre, déclarait Phaéstos. Tous les humains ont disparu de la Terre, excepté à Ilium et dans ses environs. Ils se sont envolés en fumée.
Achille se tourne vers lui d'un air menaçant.
Où sont partis les nôtres? Que leur avez-vous fait, toi et les autres immortels?
L'artificier écarte les bras en signe d'innocence.
Nous n'y sommes pour rien, fils de Pélée. Cela n'est pas l'œuvre d'un dieu. C'est une autre puissance qui a vidé la terre. Nous autres, Olympiens, nous avons besoin de nos adorateurs. Si nous devions vivre sans tous ces crétins qui nous idolâtrent, se prosternent devant nous et nous édifient des autels, nous serions pareils à Narcisse dans un monde sans miroir, et je sais de quoi je parle. Non, nous n'y sommes pour rien.
Parce qu'il existerait d'autres dieux? C'est cela que tu voudrais me faire croire?
Demande Achille l'épée à la main.
Les puces ont des pucerons, les pucerons ont des pucettes, les pucettes ont des pucelots, et ainsi de suite, ad infinitum,
réplique l'immortel barbu.
Ah, tais-toi donc!
Après avoir gratifié le chien d'une dernière caresse, Achille tourne le dos à Héphaïstos. Ils entrent dans le grand hall, la salle du trône pour ainsi dire, là où Achille fut jadis accueilli par Odysseus et son épouse Pénélope. À l'époque, Télémaque n'était qu'un garçonnet timide que sa nourrice avait dû emmener en hâte après qu'il eut trouvé le courage de saluer les myrmidons rassemblés. La salle du trône est déserte. Héphaïstos consulte l'un de ses instruments.
« Par ici !»
dit-il. Achille sur les talons, il regagne le vestibule aux fresques colorées pour se diriger vers une autre pièce, plus vaste et moins éclairée. Il s'agit de la salle de banquet, occupée par une table de 30 pieds de long. Zeus y est vautré de tout son long, les bras et les jambes ballants. Il est nu et il ronfle. Il règne autour de lui un désordre indescriptible. Le sol est jonché de vaisselles brisées, ainsi que de flèches tombées d'un grand carquois accroché à l'un des murs, la tenture qui ornait l'autre servant de couche au père des dieux.
Un sommeil absolu, pas de doute, maugré Héphaïstos.
Je ne saurais mieux dire, opine Achille. Il ronfle tellement fort que les poutres auraient dû céder depuis belle lurette.
Le tueur d'hommes prend garde à ne pas marcher sur les pointes barbelées des flèches répandues sur le sol. Bien qu'il soit rare à l'admettre, les guerriers grecs ont l'habitude de tremper leurs pointes dans des substances létales, et le fils de Pélée a appris de l'oracle et de sa mère Thétis qu'il devra la mort à une flèche empoisonnée l'atteignant en un endroit bien précis de son corps. Toutefois, ni les moires ni sa mère immortelle ne lui ont précisé le lieu et l'heure de son trépas, pas plus que la personne qui en serait responsable. Il serait tout aussi ironique qu'absurde qu'il s'égratigne à l'une des flèches d'Odysseus et périsse dans d'atroces souffrances avant même d'avoir réveillé Zeus afin qu'il puisse sauver Penthésilée.
Non, je veux dire qu'Héré l'a endormi en lui refilant une dose de sommeil absolu,
dit l'artificier.
C'est une potion que j'ai développée sous forme d'aérosol, à partir d'une recette de Nyx.
Peux-tu le réveiller?
Oh oui, je crois bien. Pas de souci.
Héphaïstos s'intéresse de nouveau à ses trousses et à ses boîtes, fouillant dans celle-ci, poussant celle-là de côté, disposant sur la table une série de fioles, de flacons et d'outils divers. Pendant que le dieu barbu s'affaire à la besogne, Achille examine de plus près le père des dieux et des hommes, le maître de la foudre, autrement dit Zeus. Même allongé sur le dos, les jambes écartées, sa carcasse de 15 pieds de haut est fort impressionnante, avec ses muscles puissants parfaitement proportionnés et sa barbe peignée en boucles harmonieuses, mais abstraction faite de sa taille et de sa beauté, ce n'est qu'un homme qui cuve après avoir tiré un coup. Son divin pénis, presque aussi long que l'épée d'Achille, repose rose vif et à peine flasque sur sa divine cuisse ointe d'huile parfumée. L'assembleur des nuées ronfle et bave comme un pourceau.
« Voilà qui devrait le réveiller !»
déclare Héphaïstos. Pour la première fois de sa vie, Achille voit une seringue dont l'aiguille mesure plus d'une coudée de long.
« Par les dieux » s'écrie-t-il. « Comptes-tu planter cette dague dans Zeus le père ?»«
En plein dans son cœur gorgé de luxure et de mensonges !»
ricane Héphaïstos.
« 1000 cm3 d'adrénaline divine à l'état pur, épicé d'un petit cocktail d'amphétamine de ma composition. Le seul antidote au sommeil absolu !»«
Que fera-t-il une fois réveillé ?»
demande Achille en plaçant son bouclier contre son torse. Héphaïstos hausse les épaules.
Je n'ai pas l'intention de m'attarder pour le découvrir. Dès que je lui aurai injecté ce remède de cheval, je fiche le camp. Si tu veux voir comment réagit Zeus en découvrant une aiguille plantée dans son cœur, c'est ton problème, fils de Pélée.
Achille agrippe le dieu par la barbe et l'attire contre lui.
S'il y a un problème, ce sera notre problème, je te le garantis, ô artificier estropié.
Que veux-tu que je fasse, ô mortel? Que je te tienne par la main? C'est toi qui as eu l'idée de le réveiller.
Mais il est aussi dans ton intérêt de le faire, ô dieu à la patte folle.
Rétorque Achille sans relâcher son étreinte d'un iota.
Comment cela?
Héphaïstos plisse son œil valide d'un air méfiant.
Si tu m'aides à accomplir ma tâche,
murmure Achille à l'oreille difforme du dieu ronchon,
dans moins d'une semaine, tu t'assieras sur le trône du grand hall des dieux.
Comment une telle chose serait-elle possible?
Héphaïstos murmure lui aussi, et dans son œil plissé, la méfiance a laissé la place à une curiosité teintée d'espoir. Toujours en chuchotant et sans lui lâcher la barbe, Achille expose son plan à l'artificier. Zeus se réveille en rugissant. Fidèle à sa parole, Héphaïstos s'est écu dès qu'il a injecté de l'adrénaline dans le cœur du père des dieux, ne prenant que le temps d'ôter la seringue pour la jeter au loin. 3 secondes plus tard, Zeus se redresse, pousse un rugissement qui contraint Achille à se plaquer les mains sur les oreilles, puis se lève d'un bond, renversant la table longue de 30 pieds, et démolit d'un seul coup de poing le mur sud du palais d'Odysseus.
Errez !
Tonne Zeus.
Nom de Dieu !
Achille s'ordonne de ne pas trembloter, mais il recule d'un pas pendant que le père des dieux achève de pulvériser le mur, s'empare d'une poutre pour fracasser le chandelier taillé dans une roue de char, désintègre la table d'un seul coup de poing et se met à faire les 100 pas. Puis, Zeus semble remarquer le fils de Pélée qui se tient sur le seuil de la pièce.
« Toi !»«
Moi !»
opine Achille. Il a remis son épée au fourreau, poliment passé son bouclier dans son dos. Il a les mains vides et ouvertes. La dague déicide qu'Athénée lui a offerte pour qu'il trucide Aphrodite est passée à sa ceinture, mais elle est hors de vue.
« Qu'est-ce que tu fiches à Olympos ?»
grommelle Zeus. Il est toujours nu comme un ver. En le voyant porter une main à son front, Achille comprend qu'il souffre d'une migraine carabinée, ce que confirment ses yeux injectés de sang. De toute évidence, on ne sort pas du sommeil absolu sans une bonne gueule de bois.
« Tu n'es pas à Olympos, seigneur Zeus, » répond Achille à voix basse. « Tu te trouves sur Ithaque, sous un nuage d'or protecteur, dans la salle de banquet d'Odysseus, fils de Laërte. »
Zeus parcourt les lieux d'un œil mi-clos. Puis il plisse le front. Finalement, il se tourne à nouveau vers Achille.
« Combien de temps suis-je resté endormi, mortel ?»«
2 semaines, père. »
« Ce n'est sûrement pas toi, Argien, tueur d'hommes aux pieds rapides, qui m'a soustrait aux effets de la drogue ou du charme par lequel erré au bras blanc m'a endormi. Quel est le dieu qui m'a réveillé? Et pourquoi l'a-t-il fait ?»«
Ô Zeus qui commande à la foudre et aux nuées, »
dit Achille en baissant la tête comme il a vu faire les humbles.
« Je te dirai tout ce que tu souhaites savoir, et il est exact qu'un dieu t'est resté fidèle, alors que la plupart des immortels d'Olympos t'avaient renié. Mais je te prie tout d'abord d'exaucer mon vœu.
« Ton vœu ?»
rugit Zeus.
« Je vais t'expédier des vœux que tu n'oublieras jamais si tu l'ouvres encore sans permission. Tais-toi et ne bouge plus !»
Le gigantesque dieu fait un geste de la main, et l'un des 3 murs encore debout, celui sur lequel était accroché le carquois et où l'on devine la trace laissée par un grand arc, ondoie et se transforme en une surface réfléchissante, semblable au bassin holographique du grand hall des dieux. Achille comprend qu'il a devant lui une vue aérienne de ce même bâtiment, le palais d'Odysseus. Il aperçoit Argos devant les portes. Grâce à ses biscuits, le chien affamé a trouvé la force de se traîner à l'ombre.
Erré n'aurait pas manqué d'établir un champ de force sous mon nuage protecteur,
marmonne Zeus.
Héphaïstos est le seul qui a pu le désactiver. Je m'occuperai de lui plus tard.
Un nouveau geste de la main, et sur le mur apparaît le sommet d'Olympos, avec ses temples désertés, ses chars abandonnés.
Ils sont descendus s'amuser avec leurs jouets préférés,
grogne Zeus. Devant les murailles d'Ilium, la bataille fait rage. Apparemment, les forces d'Hector repoussent les Argiens et leurs engins de siège jusqu'à la colline Batier et au-delà. Dans les hauteurs s'entrecroisent des milliers de flèches et plus d'une vingtaine de chars volants. Éclairs et rayons écarlates tombent de toutes parts au milieu des mortels en lutte. Des explosions font trembler le sol et frémir les cieux, les dieux s'affrontant entre eux en même temps que leurs champions. Zeus secoue la tête.
Regarde-les donc, Achille. Ils sont aussi pitoyables que des cocaïnomanes ou des joueurs invétérés. Cela fait plus de 500 ans que j'ai vaincu les derniers titans, les premiers transformés, et jeté Cronos, Rhea et leurs monstrueux semblables dans l'abîme du Tartare. Plus de 500 ans que nous cultivons nos pouvoirs olympiens et jouissons de notre divinité. Et tout ça pour ça !
Achille, sentant qu'on ne lui demande pas vraiment son avis, se garde d'ouvrir la bouche.
Des enfants gâtés qui ne pensent qu'à leur jeu !
Hurle Zeus, obligeant de nouveau Achille à se boucher les oreilles.
Aussi irrécupérables que des camés ou des ados de l'air perdu devant leur console vidéo. 10 ans ! Ça fait 10 ans qu'ils ne cessent de s'allier et de se trahir, de conspirer et de s'affronter en secret, bravant l'interdit que je leur avais imposé, et que je ralentis le temps, et que je charge mon héros de nano pour décupler sa puissance. Tout ça pour s'assurer que c'est leur camp qui va l'emporter. Comme si ça pouvait faire un paix de différence !
Achille sait qu'un autre que lui, un homme indigne de ce nom en d'autres termes, serait déjà en train de se rouler par terre en proie à d'horribles convulsions. Mais le tonnerre sonore qui se déchaîne autour de lui commence quand même à lui nouer les entrailles.
« Des junkies, voilà ce qu'ils sont !»
reprend Zeus en adoptant un volume moins pénible.
« Si je les avais tous inscrits aux homériques anonymes il y a 5 ans de cela, je me serais épargné le règlement de compte qui s'annonce. Héré et ses alliés sont allés trop loin. »
Achille observe le carnage sur le mur. L'image est si nette, si saisissante, qu'il a l'impression qu'une brèche s'est ouverte sur le champ de bataille. Placés sous les ordres de ce médiocre général qu'est Agamemnon, les Achéens commencent à perdre pied. En outre, Apollon à l'arc d'argent se montre plein de ressources et repousse vers la mer les chars d'Athénée et d'Érée. Mais on ne peut pas encore parler de déroute, ni sur terre, ni dans les airs. Achille, dont le sang se met à bouillir à ce spectacle, est pris d'une irrésistible envie de se joindre à la mêlée, de mener ses myrmidons dans une contre-attaque décisive, de graver sur le marbre du palais de Priam l'empreinte des roues de son char, de traîner derrière lui le camp sanguinolent d'Hector, de laisser sur son passage un sillage de sang.
« Alors !»
rugit Zeus.
« Parle !»«
Que souhaites-tu savoir, ô père des dieux et des hommes ?»«
Quel est ce vœu que tu désires que j'exauce ?» Fils de Tétis.
Tout en continuant d'observer les événements qui se déroulent sur le mur, Zeus a entrepris de se rhabiller. Achille se rapproche de lui.
Pour me récompenser de t'avoir retrouvé et réveillé, père Zeus, je te demande de rendre la vie à Penthésilée dans l'une de tes cuves de soins et...
Penthésilée !
Tonne Zeus.
Cette pétasse d'Amazone venue du pont Euxin ? Cette salope blondasse qui a trucidé sa sœur Hippolytée ? Pour s'emparer de ce trône minable ? Comment a-t-elle trouvé la mort ? Et quel lien peut-il y avoir entre Achille et elle ?
Achille serre les dents à s'en faire grincer les mâchoires, mais il garde baissés ses yeux désormais assassins.
« Je l'aime, ô Zeus, et Zeus hurle de rire.
« Tu l'aimes, dis-tu ? Fils de Tétis, que ce soit dans un holomur, dans un holobassin ou en personne, je t'observe depuis que tu es un marmot, depuis que tu n'étais qu'un morveux confié aux bons soins de Chiron, le si patient centaure, et jamais je ne t'ai vu aimer une femme. Tu vas jusqu'à abandonner la malheureuse qui t'a donné un fils chaque fois que l'envie te prend de partir en guerre ou d'aller voir les putes. Tu aimes Penthésilée ? Cette blonde et cervelée armée d'une lance ? À d'autres, fils de Tétis, à d'autres.
J'aime Penthésilée et souhaite l'avoir ramenée à la vie, répète Achille. L'image de sa dague déicide lui embrase l'esprit. Mais Athénée lui a déjà menti par le passé. Si cette dague est moins meurtrière qu'elle ne l'affirme, Achille serait stupide d'attaquer Zeus. De toute façon, il s'est déjà montré stupide en venant ici implorer le père de tous les dieux. Mais il persévère, les yeux toujours baissés, mais les poings à présent serrés. Aphrodite a donné à la reine des Amazones un parfum qu'elle devait porter en m'affrontant et...
Nouvel éclat de rire de Zeus.
Non ! Le numéro 9 ! J'y crois pas ! Eh bien, tu es baisé dans les grandes largeurs, mon vieux. Comment est morte cette gourde de Penthésilée ? Non, attends, je vais voir ça par moi-même.
Un nouveau geste de la divine main droite, et le mur se brouille, sautille, se meut dans le temps et dans l'espace. Achille lève les yeux et découvre les Amazones qui foncent à bride abattue vers ses camarades et lui-même, sur la plaine rouge au pied du mont Olympe. Sous ses yeux, Clonia, Brémusa et les autres tombent sous les flèches et les javelines. Et sous ses yeux, Achille en personne transperce d'un puissant coup de lance la reine Penthésilée, qui se retrouve clouée à sa cavale agonisante, tel un insecte sur une table de dissection.
« Bien joué !»
s'exclame Zeus.
« Et à présent, tu souhaites la voir ressuscitée dans l'une des cuves de mon guérisseur ?»«
Oui, Seigneur. »
« J'ignore comment tu as appris l'existence du guérisseur et de ses cuves, »
dit Zeus en se remettant à faire les 100 pas.
« Mais tu dois savoir une chose, il est incapable de rendre la vie à un mortel qui l'a perdu. »«
Seigneur, » insiste Achille, « Athénée a placé le corps de ma bien-aimée sous un charme qui retarde la corruption, qui tient la mort à distance. Il doit être possible de... »«
Silence !»
rugit Zeus avec une puissance telle qu'Achille recule vers le mur animé.
Nul membre du Panthéon des Immortels n'a le droit de dire à Zeus ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Encore moins un vulgaire mortel féru de culturisme.
Bien sûr que non, ô père,
dit Achille en levant les yeux vers le gigantesque dieu barbu.
Mais j'espérais que...
Silence!
Répète Zeus, baissant toutefois le volume, ce qui permet à Achille de décoller ses mains de ses oreilles.
« Je m'en vais maintenant. Il faut que j'aille pulvériser Héré, précipiter ses complices dans l'abîme du Tartare, infliger aux autres dieux un châtiment qu'ils n'oublieront pas de sitôt, et éliminer une bonne fois pour toutes ces envahisseurs argiens. Vous autres, les Grecs, si fourbes, si arrogants, vous me faites vraiment mal au sein. »
Il se dirige vers la porte.
« Tu te trouves ici sur la terre d'Ilium, fils de Tétis. » Ça te prendra sans doute plusieurs mois, mais tu peux rentrer chez toi. À ta place, je ne remettrai pas les pieds à Ilium. Le temps que tu y arrives, il n'y restera plus un seul Achéen vivant.
Non, fait Achille.
Zeus fait demi-tour. Il sourit dans sa barbe.
Qu'est-ce que tu as dit?
J'ai dit non. Tu dois exaucer mon vœu.
Achille fait basculer son bouclier sur son bras, prêt au combat. Il sort son épée du fourreau. Zeus rejette la tête en arrière et part d'un nouveau rire.
Sinon, que feras-tu, ô fils bâtard de Tétis?
Sinon, j'offrirai le foie de Zeus au chien d'Odysseus qui meurt de faim dans la cour,
réplique Achille d'une voix ferme. Zeus secoue la tête en souriant.
« Sais-tu pourquoi tu es toujours en vie, misérable insecte ?»«
Parce que je suis Achille, fils de Pélée, » répond le tueur d'hommes en avançant d'un pas.
Il regrette de ne pas avoir sa javeline.
« Le plus grand guerrier, le plus noble héros du monde, invulnérable aux atteintes de ses ennemis, ami du défunt Patrocle, esclave et serviteur de personne, ni homme, ni dieu. »
Zeus secoue la tête une nouvelle fois.
« Tu n'es pas le fils de Pélée. »
Achille fait halte.
« Qu'est-ce que tu racontes, seigneur des mouches, seigneur des bouses? Je suis le fils de Pélée, lui-même fils d'Éaque,
Le mortel qui s'est uni avec l'immortel Tétis, déesse de la mer, le roi des Myrmidons, lui-même descendant d'une longue lignée de rois.
Non,
fait Zeus, et c'est lui qui s'avance cette fois-ci, lui qui se dresse au-dessus d'Achille.
Tu es certes le fils de Tétis, mais tu es un enfant bâtard, issu de mes œuvres, et non de celles de Pélée.
Ton fils ?
Achille tente de rire, ne réussit qu'à produire qu'une sorte de braiement.
Ma mère immortelle m'a dit en vérité que...
Ta mère immortelle ment comme une arracheuse de dents,
s'esclave Zeus.
Il y a une trentaine d'années, j'ai désiré Tétis. Ce n'était pas alors une déesse en titre, mais elle était plus belle que la plupart des mortels. Toutefois, les moires, ces satanés comptables équipés d'abacs à mémoire ADN, m'ont averti que le fruit de notre union risquait un jour de me défaire, de m'oxyre, et même de renverser Olympos.
Dans les yeux d'Achille se mélangent la haine et l'incrédulité.
Mais je désirais ardemment Tétis,
poursuit Zeus.
Alors je me la suis tapée. Mais j'ai pour ce faire pris la forme de Pélée, un bel âtre de mortel pour qui Tétis en pinçait à l'époque. Le sperme qui t'a conçu est la divine semence de Zeus, ô Achille, fils de Tétis, cela ne fait aucun doute. Sinon, pourquoi ta mère t'aurait-elle enlevé à ce crétin de Pélée pour confier ton éducation à un vieux centaure ?
Tu mens ! Gronde Achille.
Zeus secoue la tête d'un air triste cette fois.
Tu vas mourir dans une seconde, jeune Achille,
déclare le père de tous les dieux et de tous les hommes.
Mais tu mourras en sachant que j'ai dit vrai.
Tu ne peux me tuer, ô seigneur des morpions !
Zeus se caresse la barbe.
Non, en effet. Pas directement. Tétis y a veillé. Lorsqu'elle a appris que c'était moi qui l'avais engrossée, non cette couille molle de Pélée, elle a déduit de la prédiction des moires que je ne manquerais pas de te tuer, à l'instar de mon père Cronos, qui a préféré dévorer ses enfants plutôt que de les voir se révolter une fois devenus adultes. Et c'est bien ce que j'aurais fait, jeune Achille. Je t'aurais mangé tout cru quand tu n'étais qu'un bébé, si Tétis n'avait pas réussi à te plonger dans les flammes probabilistes du feu céleste quantique. Tu es une anomalie quantique qui n'a pas son pareil dans tout l'univers, fils bâtard de Tétis et de Zeus. Ta mort, dont j'ignore moi-même les détails précis, les moires n'ayant pas daigné m'en informer, est fixée une bonne fois pour toutes.
Alors affronte-moi, dieu des fesses !
Hurle Achille qui s'avance l'épée au poing et le bouclier bien en place. Zeus lève une main. Achille est figé sur place. Le temps lui-même semble gelé.
Je ne peux pas te tuer, impétueux petit bâtard,
marmonne Zeus comme pour lui-même.
Mais suppose que j'arrache la chair de ton squelette pour la réduire aux cellules et aux molécules qui la composent. Même en tenant compte des impératifs quantiques, il te faudrait un certain temps pour te recomposer. Qui sait, des siècles peut-être. Et je ne pense pas que la procédure soit indolore.
Paralysé, Achille se rend compte qu'il a toujours le pouvoir de parler. Il choisit de n'en rien faire.
Ou alors, je pourrais t'envoyer te faire voir ailleurs,
dit Zeus en désignant le plafond,
là où il n'y a pas d'air respirable. Voilà qui poserait un fort intéressant problème à la singularité probabiliste du feu céleste.
On trouve de l'air partout, hormis au fond des océans,
gronde Achille, juste avant de se rappeler son existence déplaisante sur les pentes d'Olympos.
Un petit séjour dans l'espace interplanétaire te prouverait aisément le contraire,
dit Zeus avec un sourire horripilant.
Quelque part au-delà de l'orbite d'Uranus peut-être, ou alors carrément dans la ceinture de Kuiper. Mais le Tartare fera aussi bien l'affaire. L'atmosphère y est surtout composée de méthane et d'ammoniac, de quoi transformer tes poumons en brindilles. Mais à condition de survivre quelques heures à d'atroces souffrances, tu pourrais y retrouver tes grands-parents. Ils mangent les mortels, tu sais.
Va te faire foutre !
S'écrie Achille.
Ainsi soit-il, dit Zeus. Je te souhaite un bon voyage, mon fils. Un voyage bref et atroce, mais bon.
Le roi des dieux décrit un arc de la main droite, et les carreaux se dissolvent sous les pieds d'Achille. Un cercle s'ouvre dans le sol de la salle de banquet d'Odysseus, et le tueur d'hommes aux pieds rapides se retrouve suspendu au-dessus des flammes. Des profondeurs du gouffre qui s'ouvre au-dessous de lui, un gouffre envahi de nuées sulfureuses où des montagnes noires se dressent telles des dents pourries, où bouillonnent des lacs de plomb fondu et des cratères débordants de lave, où l'on perçoit les lents mouvements de formes inhumaines, montent les cris et les grondements émis par les monstres jadis dénommés titans. Un nouveau geste de la main divine, à peine une pichenette, et Achille tombe dans l'abîme. Il ne daigne pas crier. Après avoir passé une bonne minute à contempler les flammes et les nuées noires et bouillonnantes, Zeus bouge à nouveau la main, le cercle se referme, le sol redevient solide, composé de dalles impeccablement alignées, et il règne dans le palais d'Odysseus un silence que seuls viennent interrompre les geignements d'un chien affamé nommé Argos dans la cour. Zeus pousse un soupir et se téléporte, bien décidé à passer un savon à des dieux qui ne se doutent encore de rien.